Nous continuons donc notre étude du livre de Néhémie en commençant notre lecture au chapitre 2, verset 11. Et j'arrivai à Jérusalem, et je fus là 3 jours, et je me levai de nuit, moi et le peu d'hommes qui étaient avec moi. Et je n'avais informé personne de ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Et je n'avais pas de bête avec moi, sinon la bête que je montais. Et je sortis de nuit, par la porte de la vallée, en face de la source du chacal, vers la porte du fumier. Et je considérai les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine, et ses portes consumées par le feu. Et je passai à la porte de la fontaine, et à l'étendue. Et il n'y avait pas de place où passer la bête qui était sous moi. Et je montai de nuit par le torrent, et je considérai la muraille, et je m'en revins et entrai par la porte de la vallée, et je m'en retournai. Or les chefs ne savaient pas où j'étais allé, ni ce que je faisais. Et jusque-là, je n'avais rien communiqué aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux nobles, ni aux chefs, ni aux autres qui s'occupaient de l'œuvre. Et je leur dis, voyez la misère dans laquelle nous sommes, que Jérusalem est dévastée, que ses portes sont brûlées par le feu. Venez et bâtissons la muraille de Jérusalem, afin que nous ne soyons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la main de mon Dieu avait été bonne sur moi, et aussi les paroles du roi qu'il m'avait dites. Et ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils fortifièrent leurs mains, pour bien faire. Et quand Shambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur Ammonite, et Gershem, l'Arabe, l'apprirent, ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Et ils dirent, « Qu'est-ce que vous faites là? Voulez-vous vous révolter contre le roi ?» Et je leur répondis, et je leur dis, « Le Dieu des cieux, lui, nous fera prospérer. Et nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. » Chapitre 3. Alors Eliashib, le grand sacrificateur, et ses frères, les sacrificateurs, se levèrent et bâtirent la porte des brebis. Ils la sanctifièrent et en posèrent les battants, et ils la sanctifièrent jusqu'à la tour de Méa, jusqu'à la tour de Hananéel. Et à côté d'eux bâtirent les hommes de Jéricho. Et à côté d'eux bâtit Zakur, fils d'Imri. Et les fils de Sénéa bâtirent la porte des poissons. Ils en firent la charpenterie et en posèrent les battants et les verrous et les barres. Et à côté d'eux répara Meremoth, fils d'Uri, fils d'Akko. Et à côté d'eux répara Meshulam, fils de Berekia, fils de Merezabel. Et à côté d'eux répara Tzadok, fils de Baana. Et à côté d'eux réparèrent les Théopites. Mais les principaux d'entre eux ne plièrent pas leur cou au service de leur seigneur. Et Joïada, fils de Bézéac, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la porte du vieux mur. Ils en firent la charpenterie et en posèrent les battants et les verrous et les barres. Et à côté d'eux réparèrent Malatia le Gabaonite et Jadon le Méronotite et les hommes de Gabaon et de Mitzpah vers le siège du gouverneur de l'autre côté du fleuve. À côté d'eux répara Uziel, fils de Haraya, l'un des orfèvres, et à côté d'lui les répara Anania d'entre les parfumeurs. Et laissèrent Jérusalem en son état jusqu'à la muraille large. À côté d'eux répara Réphaïa, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. Et à côté d'eux répara Jedaïa, fils de Harufmat, savoir vis-à-vis de sa maison. Et à côté d'eux répara Hattush, fils de Hasbania, Malkija, fils de Harim, et Hashub, fils de Pakat. Moab réparèrent une seconde portion et la tour des fours. et à côté d'eux réparèrent Shallum, fils d'Alokesh, chef de la moitié du district de Jérusalem, lui et ses filles.
Comme d'habitude, on donne un court rappel, chapitre 1er et 2e jusqu'au verset 10. Ils sont donc en des temps de ruines, de résidus remontés en plusieurs fois, comme le livre d'Esdras nous le montre, qui a été considéré dans le livre d'Esdras plutôt sous son aspect religieux. L'autel a été rebâti, le temple, et puis voilà ce résidu qui se trouve de nouveau dans un état misérable. Et la communication en est faite à Néhémie qui se trouve à la cour du roi, Artaxerxès, qui occupe un poste important, celui des chansons du roi. Son frère vient de Jérusalem et lui raconte dans quel état se trouve le peuple. Et on a pu dire, voilà, nous avons ces deux frères qui se parlent l'un à l'autre. C'est l'illustration de ce que nous trouvons dans le livre de Malachie. Ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre. De quoi parle-t-il? Du peuple de Dieu. Leurs intérêts sont là. C'est le peuple de Dieu. Il est dans la ruine et c'est un sujet de peine profonde pour eux. Alors on voit que Dieu a préparé cet homme, Néhémie, auquel il a mis à cœur de visiter ses frères, comme autrefois Moïse. On a ce passage dans le livre des Actes, discours d'Étienne, à propos de Moïse. Il lui mit au cœur de visiter ses frères. Et d'abord, le voilà qui prend à cœur cet état. On le voit verser des larmes, prier, s'humilier, prendre sur lui-même aussi la culpabilité, celle de ses pères. On le voit en vrai homme de Dieu s'identifier au peuple dans la ruine et confesser au nom de tous la misère du peuple. Et cela dure pendant 4 mois, ce qui sépare le mois de Kislev et le mois de Nisan, de la 20e année du roi Artaxerxès. On nous a rappelé dans le psaume 51 la confession du péché, et ce qui suit, c'est bien frappant, on peut relire ce verset, ces deux versets, le verset 17 et le verset 18, parce qu'il nous semble bien nous résumer le début au moins de ce livre de Néhémie. Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. C'est bien l'état dans lequel nous trouvons Néhémie au premier chapitre. Et puis le verset 18, fais du bien dans ta faveur à Sion, bâtis les murs de Jérusalem. C'est alors ce qui suivra l'activité que Néhémie va avoir en faveur du peuple. Et on peut reconnaître chez lui un homme d'action, un homme énergique, mais aussi un homme de prière. Les deux choses vont ensemble. L'activité n'étant que la partie extérieure d'un service pour le Seigneur. C'est un homme dont le service est soutenu par sa prière. Et nous avons vu que à la fin de cette période, c'est-à-dire à la fin du verset 11, fin du premier chapitre, il est là, conscient que la rencontre avec le roi l'occasion va lui être donnée. Alors il peut dire, fin du verset 11, « Fais réussir aujourd'hui ton serviteur, je te prie, et donne-lui de trouver miséricorde devant cet homme. » Nous avons remarqué que dans ce grand roi, mais il reconnaît qu'il n'y a finalement qu'un homme et que cet homme, Dieu peut incliner son cœur, comme ça nous est dit au chapitre 21 des Proverbes. Le cœur des rois est comme des ruisseaux d'eau, il l'incline à tout ce qui lui plaît. Mais alors, ce sentiment-là, que celui qui est en face de lui n'est qu'un homme, s'associe tout à fait avec le sentiment aussi du respect dû à l'autorité. Et il ajoute « J'étais échanson du roi ». Là, il lui donne son titre. Il a le respect qui nous est recommandé dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises, en particulier dans la première épître de Pierre, « Craignez Dieu, honorez le roi ». Alors, il a demandé le secours de Dieu. Mais il reste un homme sensible, ce n'est pas un héros, un surhomme. Il nous a dit, le moment d'après, quand l'entretien s'engage, j'eus extrêmement peur. Un homme de Dieu qui, conscient de ce que Dieu est avec lui, qui va avoir à parler de sa part, malgré tout, il est là dans le sentiment de son entière faiblesse. Et ce qu'il fait, cette prière rapide, fait penser à Matthieu 10, on nous a rappelé ce que nous trouvons là à propos des persécutions. Le Seigneur annonce à ses disciples, vous serez traduits devant les gouverneurs et les rois à cause de moi, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz en ce jour-là, mais cela vous sera donné. Et en effet, Néhémie est là dans le sentiment qu'il a besoin du secours de Dieu et de sa direction pour répondre ce qu'il faut. En effet, son visage est triste. On ne devait pas être triste en présence du roi. Nous le trouvons aussi dans l'histoire de Daniel, dans le premier chapitre. Et la question que le roi pose là, nous montre qu'il a conscience de cette tristesse, et même que c'est une tristesse de cœur. Il nous montre l'intelligence de ce roi. Eh bien, Néhémie trouve là l'occasion de lui faire part du motif de cette tristesse. Être triste pour un motif comme celui-là. Et on nous a rappelé que nous n'avons pas à nous affliger de nos circonstances. Le croyant peut être joyeux, heureux dans ces circonstances, mais que s'il est toujours joyeux, il est néanmoins attristé, conscient de la ruine et de la misère du peuple de Dieu. C'est un sentiment qui doit demeurer en nous. Nous devons être conscients de la ruine, certainement, et plus que jamais, mais en même temps, conscient des ressources d'en haut, conscient des ressources de Dieu. Ne perdons pas cela de vue suivant sa responsabilité, l'Église a manqué, a failli, est dans un état lamentable, les ressources de Dieu n'ont pas changé. Et sa mesure n'a pas changé non plus. La sainteté de Dieu ne s'est pas abaissée le moins du monde en se mettant, pour ainsi dire, à notre portée. Nous n'avons pas le droit de faire des concessions. Mais voilà, Dieu attend de nous une fidélité et un zèle individuel et un attachement à sa parole et à son assemblée. Il s'adresse rapidement à son Dieu, il a une réponse. Il nous a dit aussi de ce roi que la reine était à son côté. Cette reine a certainement joué un rôle là que la parole nous... puisqu'elle nous est mentionnée dans ce petit détail, sans qu'elle prenne la parole, et nous ne savons pas de quelle manière, mais Dieu tient compte de tout. Et puis, nous avons vu là que Néhémie allait être finalement, en fait, le gouverneur, et qu'il allait partir avec des responsabilités importantes. Il demande là des différents matériaux pour pouvoir dont il pourra disposer pour travailler à la muraille. Et on voit par là qu'il avait pensé pendant le temps d'attente, pendant ces 4 mois d'attente, à tout ce qu'il faudrait pour reconstruire la maison. Un homme qui a, jusque dans les détails, conscience des besoins de la ville et de la construction de la muraille. On nous a exhorté aussi, à propos de l'exemple de Néhémie, à faire de bons choix. Et quand on parle du choix, en général, on pense à la conversion, à choisir la vie. Nous trouvons dans la parole les versets à ce sujet, mais pour un chrétien aussi, à faire de bons choix, on peut être appelé à des renoncements pour le Seigneur. Renoncer, comme nous avons ici Néhémie, à une situation enviable, à l'abri de tout besoin, de tout problème. Il est là à la cour du roi. Eh bien, il est prêt à tout laisser pour servir le peuple de Dieu, pour servir l'Éternel. On nous a aussi parlé de cette bonne main de Dieu dont il est question à la fin du verset 8, expression que nous trouvons plusieurs fois, au moins 4, sauf erreur, dans les chapitres 7 et 8 du livre d'Esdras. La bonne main de Dieu qui est sur lui et qu'il reconnaît. Nous voyons qu'il a reçu de l'aide, là, de la part du roi. Esdras, en son temps, avait eu honte de demander de l'aide. Il s'agissait du rétablissement du temple et de l'autel. Donc, il y avait là un caractère dans lequel le monde ne pouvait pas entrer ni apporter aucune aide. Ici, Néhémie n'a pas le même exercice. Alors, il est à la fin du verset 10. Nous voyons qu'il y a les ennemis qui sont là. Les ennemis ont changé de nom, mais l'opposition reste toujours la même. Et pourquoi une opposition? Eh bien, parce que quelqu'un est venu pour chercher le bien du peuple de Dieu. Le bien du peuple, c'est la reconstruction de la muraille. On peut identifier les deux choses. La construction de la muraille, comme nous allons le voir maintenant, c'est le maintien de la séparation du monde. Donc il y a là quelque chose d'essentiel au bien du peuple de Dieu, et quand il est dit pour chercher le bien des fils d'Israël, cela s'identifie avec la construction de la muraille. Puis terminons en rappelant deux citations d'anciens frères qui nous ont été données à propos de cet homme de Dieu, de Néhémie, et qu'il vaut la peine de rappeler encore une fois. Il est important d'être devant Dieu pour les hommes, c'est ce qu'est Néhémie, il est devant Dieu pour les hommes, et d'être devant les hommes pour Dieu. En fait, c'est là une position d'intercesseur. C'est la position qu'occupe de manière parfaite notre Seigneur, le médiateur entre Dieu et les hommes. La responsabilité du croyant, c'est d'être le porte-parole des hommes devant Dieu, de prendre en main leur cause devant Dieu, et puis de placer aussi Dieu, de placer le Seigneur devant les hommes, d'en être le témoin, l'illustration. Et la seconde citation que nous aimons aussi rappeler en terminant, c'est qu'il est bon d'entrer dans une difficulté avec la prière, c'est notre premier chapitre, et d'en sortir avec la louange. C'est la fin du verset 8, quand nous voyons qu'il remercie son Dieu, la bonne main de son Dieu. Puis nous le verrons aussi dans des occasions où il remercie son Dieu. Nous sommes donc arrivés au verset 11, en même temps que Néhémie est à Jérusalem.
Donc ce détail qui nous est donné, que la reine était à côté de lui. Est-ce que nous pouvons voir là aussi, par la bouche de deux ou trois témoins, toute parole sera établie? La reine était, elle entendait ce que le roi disait. Et n'ayant rien fait de remarque, elle était d'accord avec le roi, pouvait décider à l'égard de Néhémie. Ces deux témoins, donc par la bouche de deux ou trois témoins, toute parole serait établie. Comme pour dire, eh bien, Ce que le roi voulait communiquer à Néhémie, c'était une chose ferme, établie.
Ce qu'on peut dire encore, c'est que nous admirons chez Néhémie, il n'y a aucune précipitation. Ça a été déjà dit hier, ça se confirme ici, au verset 11. En effet, il est resté 4 mois dans l'exercice, la prière, l'humiliation, la confusion de face, il confesse cette ruine, il attend l'occasion favorable. Dieu la placera devant lui, Dieu a tout préparé, il a préparé le cœur du roi. Il est patient. Pas de précipitation. Et puis ici, au verset 11, il arrive à Jérusalem, il ne se précipite pas, il est là 3 jours, il attend encore. Il va constater l'état de la ruine, il va faire le tour des murailles, en prendre bien conscience de toute la misère du peuple, mais il ne se précipite pas, il est là 3 jours, il attend.
Est-ce que nous ne pouvons pas souligner aussi ceci, c'est que ces 4 mois pendant lesquels Néhémie a prié, la persévérance dont qu'il a montré, Dieu lui a montré le chemin, un chemin par lequel il devait passer. Ce, me semble-t-il, la fin du verset 11 du chapitre 1er le laisse bien entendre quand il dit « Je te prie, donne-moi de trouver miséricorde devant cet homme. » Il a la conscience qu'il devra, lui, entrer, aller jusque devant le roi, une occasion. Et alors, la persévérance dans cette prière. Et cet homme remarquable qu'est Néhémie, cet homme remarquable, zélé et de prière, est-ce qui n'est pas, encore, ça vient d'être souligné maintenant aussi, un exemple pour nous de continuer, de persévérer dans la prière, jusqu'à ce que le Seigneur puisse nous montrer ce qu'il attend de nous. Il semble qu'il y a quelque chose, un enseignement pour nous important.
Dans ce qui vient d'être dit, semble que nous avons le psaume 32 dans son verset 8. Je t'instruirai. Néhémie attend, il se laisse instruire. Et puis, deuxième étape, Dieu va lui enseigner le chemin où il doit marcher. Et troisième étape, selon ce psaume 32, verset 8, Dieu va le conseiller ayant son œil sur lui. Il me semble que Néhémie réalise ces 3 marches, comme disait un cher frère, de ce psaume 32 dans son verset 8. Je t'instruirai, si tu te laisses instruire, eh bien, je te ferai monter une marche, je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher, et si tu marches dans ce chemin, je te fais monter sur une 3e marche, je te conseillerai, ayant mon œil sur toi. Il semble qu'il y a là une gradation heureuse réalisée par cet homme de Dieu.
On peut être étonné que Néhémie déclare qu'il se lève de nuit, qu'il sort de nuit, verset 13, par la porte de la vallée, en face de la source du chacal, vers la porte du fumier. Et il n'informe personne. Même pas, dit-il au verset 16, les autres qui s'occupaient de l'œuvre. C'est un trait caractéristique de tout vrai serviteur de Dieu. Il ne cherche pas à attirer l'attention sur lui-même. Parce que l'œuvre qu'il accomplit, eh bien, elle a en vue, d'une part, la gloire de Dieu et le bien de son peuple. Et c'est un trait dominant dans la vie d'un vrai serviteur. Il se cache, il s'efface derrière le maître. Et cela donne au maître toute la gloire qui lui revient. Parce qu'on aurait pu se dire, étant donné les décombres les ruines amoncelées, puisque, il ajoute, il n'y avait pas de place où put passer la bête qui était sous moi. Faire cette inspection des murailles de nuit, l'exposer à bien des chutes. Mais non, il va avec Dieu et il fait le tour, il cerne, pour ainsi dire, l'état de cette muraille, la difficulté pour laquelle il était venu à Jérusalem, il en fait le tour, il regarde de près et il est attentif à tout ce que Dieu lui révèle. Nous avons là un très beau trait de cet homme de Dieu, un trait moral, l'humilité, la crainte de Dieu, qui dicte toujours cette attitude où le serviteur cherche avant tout ce qui plaît au maître, discernant le caractère des temps dans lesquels il se trouve. Il s'agit de voir de près aussi ce qui se passe au sein des assemblées, parce que l'habitation de Dieu, c'est aujourd'hui l'assemblée. Et nous devons avoir l'œil de la foi pour voir ce que Dieu voit et le considérer avec un réel intérêt en vue du bien du peuple que dont Néhémie nous offre un exemple tout à fait remarquable. D'ailleurs, ce bien qu'il recherchait, nous voyons qu'il y a des conséquences bénies lorsqu'il en vient à exhorter ses frères. Il nous est dit au verset 18, « Ils fortifièrent leurs mains pour bien faire. » Ce qui parle plus encore que des discours vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs, c'est l'exemple que nous leur donnons. C'est vrai pour l'éducation dans un foyer chrétien, en premier lieu, là où tout serviteur de Dieu fait ses premières armes, mais combien plus dans l'assemblée. Et ainsi, des âmes sont encouragées à la fidélité, à rechercher le bien, c'est-à-dire à faire tout ce qui est en accord avec la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite, comme la qualifie Romains 12. Et c'est ainsi que l'œuvre de Dieu peut être menée à bien quand il y a eu cette sainte préparation du cœur. Sans doute ce temps d'attente laisse supposer tout l'exercice qui était dans le cœur de Néhémie. Ce n'était pas de l'insouciance, absolument pas, mais il était exercé. Et quand le moment est venu et que ce « levons-nous et bâtissons » est prononcé par tous ses cœurs, eh bien chacun a le cœur à l'ouvrage.
Néhémie va entreprendre un grand travail. Un service semé de dangers, d'écueils. Et avant même d'être à l'œuvre, il prend conscience qu'il y a de l'opposition. Vu la nature du service qui est placé devant lui. C'est ce que nous avons vu hier soir au verset 10e. Et tout serviteur qui aura à cœur de revendiquer les droits divins, les caractères du témoignage de Dieu, la mission de son assemblée dans ce monde fera la même expérience. Il y aura de l'opposition. Et la fidélité, la sainteté pratique n'ont jamais rendu un croyant populaire. Et la nature et le but d'un tel service n'est nécessairement pas du goût de tous. Il y a de l'opposition. C'était déjà dans le cas dans le chapitre 10 d'Esdras, lorsqu'il faut se séparer des alliances contraires à la pensée de Dieu, au sein même du peuple, il y a eu des opposants. Des hommes s'opposèrent. Lorsqu'il faut ôter le mal, se séparer du mal, il y a toujours des opposants. Mais nous pouvons voir que si l'unité, la même pensée est combien souhaitable, désirable, néanmoins, La spiritualité et le discernement de la pensée de Dieu dans la dépendance et un désir d'obéissance passent outre. Et en Esdras 10, malgré ses opposants Meshulam et d'autres, on a continué l'œuvre de purification. Néhémie n'a pas été arrêté par le fait que beaucoup d'hommes religieux ont été très mécontents de ce qu'un homme soit venu pour chercher le bien des fils d'Israël. Mais il doit en prendre conscience, et cela mettra en évidence, a mis en évidence, dans son cœur, ce désir que rien n'arrête d'accomplir ce que Dieu a placé sur son cœur. On peut considérer aussi que il y a deux écueils auxquels on peut être exposé en rapport avec l'appel à un service. C'est soit d'être appelé et de ne pas répondre en raison des difficultés que comporte un ministère, un service. Mais on peut aussi partir en activité sans avoir été appelé. C'est un autre écueil. Souvenons-nous aussi, lorsqu'un besoin se présente, qu'il est évident, qu'il est discerné, que la constatation d'un besoin ne constitue pas nécessairement un appel à y répondre personnellement. Il peut conduire un croyant fidèle à intercéder pour cela, à prier pour cela, afin de discerner si le Seigneur véritablement l'appelle personnellement à ce service, ou s'il va former un autre serviteur pour y répondre. Ce qui apparaît également dans les versets qui sont placés devant nous, c'est la distinction qu'il y a entre l'énergie et la précipitation. Néhémie était un serviteur particulièrement énergique. Et bien des scènes déjà vues et qui sont plus avant dans ce livre nous montrent combien c'est un homme énergique. Néanmoins, ce n'est pas un homme qui agit inconsidérément sous des impulsions personnelles par précipitation ou manque d'exercice ou de réflexion, bien loin de là, puisque comme on vient de le souligner plusieurs fois, il nous a dit qu'il vient prendre, il vient constater avec en détail, il vient considérer véritablement la situation avant de se mettre à l'œuvre. Énergie d'une part, mais absence de précipitation irréfléchie d'autre part. Ces mêmes versets nous semblent placer devant nous aussi un double aspect, un autre double aspect. D'une part, il a affaire avec le Seigneur. Le serviteur est dépendant du Seigneur, il est appelé par lui, il sera formé par lui, il sera envoyé par lui. Aucune assemblée ne peut envoyer un serviteur, aucune école de théologie ne peut former un serviteur. Il a affaire avec le Seigneur. Et la formation du serviteur, ce sont des écoles privées, individuelles. Il n'y a pas deux classes semblables. Pierre n'a pas été formé comme Jean et Paul n'a pas été appelé comme Pierre. Il a donc affaire avec lui et c'est ce que ressent aussi Néhémie. Il a bien quelques hommes avec lui, mais il ne parle à personne de ce qu'il a sur le cœur. Il veut acquérir, dans la dépendance de son Dieu, la conviction de la pensée de Dieu quant à la mission qui se présente et qu'il a à cœur d'accomplir. Il n'en parle à personne. Mais ceci n'engendre en aucun cas l'indépendance. C'est une autre affaire. Pour l'appel, la formation et le départ dans le service, c'est entre le Seigneur, entre Dieu et son serviteur. Mais il ne va pas partir en chantier, dirons-nous, puisqu'il s'agit de bâtir ici, dans l'indépendance. Quand le moment est discerné, lorsqu'il voit dans la dépendance de son Seigneur, de son Dieu, qu'il y a lieu de se mettre à l'œuvre, alors il réunit les anciens du peuple et il veut travailler en communion avec eux. Ces choses qui sont si apparentes dans le passage qui nous occupe, mais qui sont un enseignement général de l'Écriture. Ce n'est pas propre à Néhémie, ce n'est pas exclusif à ce temps-là. Nous le voyons exactement la même chose dans un appel de mise à part de Paul et Barnabas. Ce n'est pas l'Assemblée qui a envoyé, l'Assemblée d'Antioche n'a pas envoyé Paul et Barnabas dans un service en leur disant où ils devaient aller. C'est l'Esprit-Saint qui les appelle. Ils sont formés et appelés de manière divine. Et Antioche s'incline devant cet appel divin. Sans doute cette Assemblée qui a bénéficié du ministère de ces hommes aurait peut-être souhaité les garder à Antioche. Mais que font-ils? C'est une Assemblée où l'Esprit agit librement et démontre de la spiritualité, ils prient pour eux, ils jeûnent, la chair n'a rien à voir dans ce choix et dans cet appel, ils leur imposent les mains, signe de communion, et ils les laissent aller, mais ils ne leur disent pas où ils doivent aller, ils ont affaire avec le Seigneur. Il y a ces deux aspects, le serviteur avec son Seigneur, et d'autre part, le serviteur avec le peuple de Dieu, la maison de Dieu, l'Assemblée. Et nous voyons ces deux aspects bien évidents dans les passages qui nous occupent. Et partir sans se préoccuper de la communion, la main d'association de l'Assemblée, c'est un ministère, nous ne craignons pas de le dire, voué à l'échec. Et il ne tardera pas à troubler. Et un serviteur doit sentir la nécessité, et c'est une sécurité pour lui, sentir la nécessité de la communion du peuple de Dieu, de l'Assemblée de Dieu, dans l'exercice de son service. C'est ce que Néhémie recherche tout de suite avant de travailler.
Les expressions « je me levais de nuit » et « je sortis de nuit » ne voyons-nous pas aussi l'énergie de la foi d'une façon particulière? Il y avait tant d'obstacles la nuit. Notre frère M. Terrade nous a donné une explication et qui reste vraiment sur nos cœurs. Mais il me semble qu'on a encore cette énergie de la foi pour se lever, pour traverser ces décombres, pour se rendre compte vraiment de ce qu'était cette ruine. Il fallait une foi profonde. Il fallait compter sur Dieu. Il fallait une confiance absolue. Elle était là.
En relation avec ce qu'on vient de dire, nos frères, j'aimerais revenir sur le verset 11, qui je crois complète ce que nous venons de voir. Néhémie dit, j'arrivai à Jérusalem et je fus là 3 jours. Esdras, quand il est monté avec, nous avons rappelé hier, qu'il est monté avec tous ses trésors que le roi lui avait redonnés, il avait eu honte de demander une escorte. Et nous voyons au verset 32 du chapitre 8, et nous arrivâmes à Jérusalem et nous demeurâmes là 3 jours. Naturellement, le voyage était long, des centaines et des centaines de kilomètres entre Suse et Jérusalem. Et nous pouvons bien penser qu'il y avait cet aspect du repos. Mais est-ce là le seul sens? Je ne pense pas. Nous voyons aussi en Josué 3 que avant de faire traverser le Jourdain au peuple, Josué le fait attendre 3 jours. En Josué 3, verset 2, et il arriva au bout de 3 jours. Et alors à ce moment-là a lieu la traversée du Jourdain. Et nous savons ce qu'elle nous représente. La mer rouge, c'est la mort, c'est l'œuvre de Christ en relation avec notre délivrance d'Égypte. Et le Jourdain, c'est l'œuvre de Christ en relation avec notre entrée dans le pays, la mort et la résurrection. Eh bien, dans ces 3 jours, n'avons-nous pas aussi ce qui doit caractériser ou ce qui devrait caractériser le serviteur? C'est-à-dire qu'il n'y ait rien de la chair et qu'il agisse selon ce que Dieu l'envoie, mais aussi qu'il agisse dans la puissance d'une vie de résurrection. C'est plus vite dit que réalisé. Mais nous voyons que c'est une chose importante. On a dit pas de précipitation, mais en même temps que l'action se fasse dans le jugement de la chair et dans, nous pouvons dire, dans la puissance de la vie de résurrection.
Rémi nous fait penser ici à un plus grand que lui, qui dans le chapitre 11 de l'évangile de Marc, entre dans le temple. Et puis il nous est dit une phrase remarquable, c'est au chapitre 11 de Marc, verset 11. Il entra dans Jérusalem et dans le temple, et après avoir promené ses regards de tous côtés sur tout, comme le soir était déjà venu, il sortit et s'en alla à Béthanie avec les 12. Dans les autres évangiles, on voit le Seigneur entrer dans le temple et immédiatement intervenir, chasser les vendeurs, renverser les tables des changeurs, de ceux qui vendaient les colombes. Il intervient aussitôt. Et Marc nous montre qu'il s'est écoulé une nuit au moins jusqu'au moment où il a purifié le temple. Il y a donc d'abord une prise de connaissance, un peu ce que nous trouvons au début de l'Apocalypse à propos de cette église. Il est celui dont les yeux sont comme des flammes de feu. Il prend connaissance de tout. Et en ce moment, chers frères et sœurs, et pendant notre vie, il prend connaissance de tout. Il n'intervient pas tout de suite, quelquefois dans son gouvernement, il nous arrête ou il nous dirige, mais il sait toutes choses. Il prend connaissance de ce qui nous concerne, ce qui concerne les assemblées. Il promène ses regards auxquels rien n'échappe, de tous côtés sur tout. Mais, voilà, le jugement n'est pas son œuvre accoutumée, alors il est patient, il attend. Si nous avons Néhémie, il s'apprête à se mettre au travail, il a déjà sans doute son plan, les matériaux sont à sa disposition, il est là sur place, eh bien, il fait le tour de la ville pour avoir une vue exacte de la situation. Et ensuite, il s'adressera alors à ses frères, et ensemble, d'un même mouvement, levons-nous et bâtissons.
Voyons la même attitude de l'apôtre Paul. Néhémie a d'abord été seul avec le Seigneur. S'il avait pris conseil des gouverneurs avant d'aller faire son inspection, certainement que ceux-ci auraient trouvé des obstacles. Ce n'est pas le moment, c'est dangereux. Ce n'est pas le moment d'agir ainsi, aurait pu le décourager. Et nous voyons aussi l'apôtre Paul, comme il dit dans les Galates, il n'a pris conseil ni de la chair ni du sang, mais il a obéi au Seigneur. Donc il est important d'être d'abord seul, comme cela a été rappelé, avec le Seigneur avant de pouvoir entreprendre son service et de pouvoir communiquer aux autres et éventuellement leur demander alors de l'aide une fois que le service est bien connu. Et la même chose avec l'apôtre Paul qui est ensuite monté à Jérusalem et qui a pu avoir la main d'association avec ceux qui étaient apôtres avant lui.
Ce sujet concernant l'appel du serviteur et la communion de l'Assemblée est d'une importance extrême aujourd'hui. On peut penser que Marc était parti trop tôt. Pourtant, c'était un homme pieux. Dans la maison où il se trouvait, l'Assemblée priait. C'est un homme certainement qui a beaucoup profité de l'enseignement des apôtres. Eh bien, il est parti à un moment donné, peut-être par un effet d'entraînement sentimental. Et l'apôtre doit dire en acte 15, l'Esprit de Dieu plus exactement, Paul, verset 38, trouvait bon de ne pas prendre avec eux un homme qui les avait abandonnés dès la Pamphylie et qui n'était pas allé à l'œuvre avec eux. Il avait donc une occasion de servir le maître, mais peut-être n'avait-il pas eu encore toute la préparation nécessaire. Il y a tout un temps où nous sommes à l'école de Dieu, en formation pour ainsi dire. Cela dure bien sûr dans un sens toute notre vie sur la terre. Et même cet abandon de Marc entraîne une irritation entre deux serviteurs qui pourtant avaient été mis à part par le Saint-Esprit dès le chapitre 13. Et voyons que le travail, même à deux, présente certains risques. Alors quand nous sommes en groupe, Le risque est encore plus grand. Il n'y a pas d'appel collectif. L'appel est individuel. Chacun doit être exercé pour savoir ce que le Seigneur désire pour lui, quel service il lui a confié. Et ceux qui sont exercés dans les assemblées doivent faire sentir la chose de la part de Dieu si le moment paraît convenable pour le départ. Car un serviteur de Dieu devient la cible de l'ennemi lorsqu'il sert en public. Il doit s'attendre à toutes sortes d'attaques. Mais si Marc est parti avec Barnabas, il y a là des liens affectifs, des liens naturels qui ont joué. Nous voyons cependant que Dieu n'a pas laissé Marc à cet abandon. Et plus tard, l'apôtre doit reconnaître qu'il pouvait être un serviteur utile. Prends Marc avec toi, car il m'est utile pour le service. Dieu avait travaillé. Dieu avait produit sans doute de vrais exercices chez ce serviteur, qui, quoique infidèle à un moment donné, a été choisi par l'Esprit Saint pour nous écrire l'évangile du parfait serviteur. Et nous avons là tout un sujet de méditation pour nous, être exercé quant à l'appel que le Maître adresse quand il désire envoyer un serviteur, et ensuite veiller à garder le contact avec l'Assemblée qui recommande aussi par la communion tout serviteur de Dieu. Ce point est aussi essentiel. Et si je ne sens pas la communion de mes frères, eh bien cela doit me travailler. C'est très important de ne pas s'engager dans un service public sans avoir la communion des frères et des sœurs. Car les sœurs aussi peuvent être très utiles à leur manière. Elles ont un rôle très utile, ne serait-ce que dans la prière, pour le bien des saints, pour le bien des serviteurs de Dieu, qui peuvent ainsi être portés, pour ainsi dire, par les prières de l'Assemblée. Et alors, juste retour des choses, les serviteurs de Dieu qui ont travaillé dans le champ du Maître viennent auprès des assemblées leur communiquer ce que Dieu a pu faire avec eux, expression que nous trouvons dans le livre des Actes, parce que c'est Dieu qui fait tout dans le service qui est accompli pour la gloire du Maître. Que ces points retiennent toute notre attention pour ne pas nous engager à la légère dans le service que le Seigneur peut confier à chacun. Il peut confier un service à une sœur, mais elle doit aussi se rendre compte comment ce service doit être exercé dans la crainte de Dieu et dans la sphère qui est réservée à la femme, selon l'Écriture. Et il y a aujourd'hui beaucoup de dangers quant à ces points. Ne pas les respecter nous expose à des échecs et à de nombreuses souffrances au sein du peuple de Dieu. Néhémie part avec l'approbation de Dieu. Il est en communion avec ses frères, nous voyons cela, et le travail peut se dérouler malgré la haine des ennemis qui désiraient absolument que cette muraille ne soit pas construite pour faire l'œuvre de Satan lui-même et disperser le peuple de Dieu. Comme le disait un frère, la seule arithmétique qui réussit à Satan, c'est la division.
Donc, si je comprends bien, ici, le but de Néhémie n'est pas seulement de chercher la communion avec ses frères, mais c'est encore de les faire participer à son exercice. Et il est d'ailleurs très remarquable de voir en quels termes il leur parle, de manière à allumer dans leur cœur ce que le Seigneur a allumé dans son cœur à lui.
Nous avons en puissance ici le réveil des cœurs. Comment il se produit? Il y a deux aspects essentiels dans des cœurs qui sont réveillés pour la gloire de Dieu. D'abord, c'est cette gloire de Dieu qui est revendiquée en premier lieu. Et le deuxième point, c'est l'amour des âmes, leur bien-être, leur sécurité. Et la sphère où les âmes peuvent le mieux prospérer, le mieux se développer, c'est l'assemblée de Dieu. colonne et soutien de la vérité. C'est là que la vérité est présentée aux âmes. Et ainsi, elles sont édifiées, elles sont encouragées, elles reçoivent la nourriture qui leur est nécessaire parce qu'elles sont séparées de toutes les influences pernicieuses de ce monde. Et c'est là qu'il y a des combattants, combattants de la prière par exemple, pour faire échec à tous les assauts de l'ennemi qui voudraient, si Dieu le laissait faire, supprimer tout témoignage pour Dieu sur la terre. Nous pouvons être certains de cela.
En tout cas, lorsqu'un serviteur de Dieu, par la grâce de Dieu, insiste pour le rassemblement chez le Seigneur, autour du Seigneur, l'ennemi est là d'une façon particulière. J'avais sous les yeux le moment où Samuel, en 1 Samuel 7, au verset 5, dit « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau, la répandirent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là. C'était donc un moment d'humiliation particulier. Mais plus loin que lisons-nous, verset 7, « Et les Philistins apprirent que les fils d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. » Et Samuel, au verset 8, va prier de nouveau, et il prendra un agneau, verset 9, « L'offre tout entier à l'Éternel en holocauste, crie à l'Éternel, et il y a exaucement. » Il y a donc une intervention de l'ennemi particulière quand il est question d'être assemblé, quel que soit le caractère du rassemblement. Donc ce passage est aussi frappant.
Proposons de chanter un cantique, le cantique 9e.
Gloire à Jésus.
L'attitude de Néhémie au verset 17 est très intéressante. comme on l'a entendu, il cherche à faire partager à ses frères son exercice. Et il ne leur fait pas de reproches en leur disant, eh bien, si vous saviez ce que j'ai vu, eh bien, voilà, j'ai fait le tour de la ville et puis j'ai constaté toute cette ruine. Comment avez-vous pu laisser les choses dans un état pareil? Est-ce que vous ne vous en êtes pas rendu compte? Vous n'avez pas vu ce qu'il y avait à faire? Aucun reproche. Mais vous voyez la misère. Voilà. Nous la constatons ensemble et puis elle est là devant nos yeux. Elle est indiscutable. Deux détails. Jérusalem est dévastée. Ses portes sont brûlées par le feu. Et puis, il ne leur dit pas, mettez-vous vite au travail et puis que cela change. Non, il ne se présente pas là comme une autorité, bien qu'il ait un titre de gouverneur. Venez et bâtissons. Venez, il faut vous mobiliser pour ce service, mais bâtissons. Il se joint à eux, se place à leur niveau. Et c'est ainsi qu'un serviteur peut obtenir quelque chose de ses frères. Il ne se place pas au-dessus d'eux, mais vraiment avec eux devant le Seigneur. Il a pris place dans l'humiliation, confessant ses propres fautes en même temps que celles du peuple. Ici, il s'agit de travailler. Eh bien, il est un serviteur comme les autres et pas au-dessus d'eux. Et c'est ainsi qu'il a pu toucher leur cœur, pareil, et obtenir quelque chose d'eux. Ils n'ont pas été là comme, disons, en disant, mais que vient-il faire parmi nous? Il n'y a aucune réaction, on dirait presque de rejet vis-à-vis de cet homme important envoyé par le roi qui vient là comme un inspecteur et qui se place là avec des exigences, non? Venez et bâtissons. Et puis que nous ne soyons plus dans l'opprobre. Là aussi, il ne leur dit pas, vous êtes dans l'opprobre, vous êtes dans un état misérable, et heureusement que je viens parmi vous, non? L'humilité, nous ne soyons plus dans l'opprobre, nous partageons cet opprobre. Eh bien, mettons-nous ensemble avec le secours du Seigneur pour faire ce qu'il a placé devant nous. Alors, il raconte aussi, voilà, le côté positif, le côté encourageant. La main de Dieu a été sur nous, donc Dieu est avec nous. C'est la volonté de Dieu que nous reconstruisions. Eh bien, que nos mains soient actives, puisque la main de Dieu est sur nous. Et alors, la réponse, il dit, levons-nous et bâtissons. Fortifièrent leurs mains pour bien faire. Voilà. Le résultat, il est acquis parce que, justement, celui qui les invite se place vraiment à leur niveau et avec conscience de ses propres responsabilités.
Prenons ce chapitre comme un encouragement pour nous, une indication pour nous. Il est bon de se souvenir que nous avons à bâtir dans un monde en ruine. Et c'est quand même bien important de se souvenir que le monde est en ruine et que nous avons à apporter un message, nous avons à apporter quelque chose de solide. Bâtir sur un rocher, bâtir sur un roc et apporter le Seigneur. Apporter le Seigneur et la parole. Quelle chose pour nous, quelle responsabilité pour nous, qui nous est ainsi, qui est placée devant nous. Nous avions vu hier la responsabilité, après avoir connu quelque chose de la misère, eh bien, il y a aussi cette responsabilité. Le monde est en ruine, nous venons de le voir. L'État est épouvantable. Néhémie l'a vu. Eh bien, que le Seigneur nous donne la force de bâtir sur un rocher, sur quelque chose de solide, sur le Seigneur Jésus. Pensons à la petite parabole à la fin du discours sur la montagne, construire sur un roc. construire sur un rocher, non pas construire sur le sable.
Deux rois quatre, c'est un moment dramatique. Nous lisons « La mort est dans la marmite ». On a recours à l'homme de Dieu, à Élisée, que dit-il, dans le sens de ce que nous venons d'entendre, apporter de la farine.
Apporter que?
Dans ce verset 17, qu'il est question des portes brûlées par le feu. Nous avons vu d'abord au début du chapitre 1, Néhémie qui a ce rapport qui lui est fait, enfin c'est lui qui questionne par son frère. Au verset 3, les restants qui sont demeurés de reste de la captivité dans la province sont dans une grande misère et dans l'opprobre, et la muraille de Jérusalem est en ruine et ses portes sont brûlées par le feu. Et ensuite nous venons de voir, à la fin du verset 13, Néhémie qui considère, « Je considérais les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine et ses portes consumées par le feu. » Il est témoin lui-même, on l'a rappelé hier. Et maintenant, il place ce qui lui a été rapporté, ce qu'il a lui-même vu, il le place devant ses frères. Vous voyez la misère dans laquelle nous sommes, que Jérusalem est dévastée, que ses portes sont consumées par le feu. Et alors, comme nous l'avons dit, venez et bâtissons la muraille de Jérusalem. Mais alors, ce qui est très remarquable, afin que nous ne soyons plus dans l'opprobre. Est-ce que nous sommes conscients que l'absence d'opprobre n'est pas en relation avec le fait que la muraille est là, mais avec le fait que la muraille n'est pas là? Si la muraille n'est pas là, nous sommes dans l'opprobre. Et nous voyons au chapitre 6 de Néhémie, verset 15, « La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul, en 52 jours, et il arriva que lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui nous environnaient craignirent et furent fortes abaissées à leurs propres yeux, et elles connurent que cette œuvre avait été faite par notre Dieu. L'opprobre prend fin même aux yeux des ennemis par le fait que la muraille est achevée. Quelle belle pensée de voir que Néhémie peut leur dire, voilà le but du travail que nous faisons, c'est afin que nous ne soyons plus dans l'opprobre. Et naturellement, il ne suffit pas d'avoir la muraille pour ne plus être dans l'opprobre. Nous voyons au chapitre 5 que Néhémie doit leur dire, quand il doit reprendre ses frères à cause de leur conduite, il leur dit au verset 9, « Ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas dans l'opprobre parmi les nations qui nous sont ennemies ?» Voilà la seconde chose. La muraille doit être reconstruite. Mais il s'agit ensuite de marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas dans l'opprobre parmi les nations qui nous sont ennemies. Et cela ressort d'une façon particulière alors après du chapitre 8, quand en effet à la suite de la lecture de la loi, nous voyons l'effet de cette lecture dans les cœurs.
Il y a deux sortes d'opprobre. Il y a l'opprobre de Christ, qui, comme Moïse a estimé l'opprobre de Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte, c'est l'opprobre de la fidélité qu'on éprouve lorsqu'on est fidèle au Seigneur. Mais l'opprobre ici, que ne soyons plus dans l'opprobre, c'est à cause de l'infidélité. Ils étaient dans l'infidélité, ils n'avaient pas reconstruite les murailles, l'ennemi pouvait entrer, il ne faisait que des ravages au sein du peuple, et bien ils étaient dans l'opprobre à cause de l'infidélité. Puissions-nous en effet ne goûter et ne trouver que de l'opprobre de Christ ou pour Christ, comme Moïse l'a réalisé.
Ce peuple dans l'opprobre était donc un peuple qui était dans la honte, c'est ce que veut dire le mot opprobre, dans la honte et dans le mépris de la part de toutes ces nations. Et il faut bien réaliser que c'était officiellement le peuple de Dieu, il était connu que l'Éternel était leur Dieu. de sorte que la honte d'Israël, l'opprobre d'Israël, était une honte sur le nom même de Dieu. De sorte que lorsque Néhémie leur dit « afin que nous ne soyons plus dans l'opprobre », c'est en fait la gloire non seulement d'Israël, mais la gloire de Dieu qu'il a à cœur. Il désire que cet opprobre d'Israël qui rejaillit sur Dieu lui-même soit ôté. Et pour cela, il faut que la muraille soit reconstruite.
Il y a donc deux caractères principaux qui nécessitaient ce réveil pour que l'opprobre soit enlevé. La construction de la muraille, c'est-à-dire une séparation d'avec tout ce qui est du monde, et puis la reconstruction, l'établissement des portes. Les portes par lesquelles peuvent entrer dans la ville, dans le témoignage, toutes sortes de souillures et d'iniquités. Les portes qui sont aussi le lieu du gouvernement. Et l'on peut dire que dans ce témoignage du temps de Néhémie, comme dans le témoignage actuel de l'Église, il n'y a plus cette séparation et il n'y a plus cette énergie pour exercer la discipline, pour exercer le gouvernement en rapport avec la gloire de Dieu, empêcher les souillures de pénétrer dans le témoignage. Et on comprend que Néhémie puisse dire « Voyez la misère dans laquelle nous sommes ».
Les paroles de Néhémie qui s'adressent aux anciens, aux nobles, aux sacrificateurs, viennent à poser un sceau de vérité sur le témoignage que Hanani lui avait donné quant à l'état du peuple. Il est beau de voir que dans les paroles d'Hanani au début du premier chapitre, et les paroles de Néhémie ici aux anciens, nous avons exactement les mêmes expressions, les mêmes caractères, des portes brûlées, des murailles en ruine, il y a de l'opprobre et de la misère. Et combien cela est précieux de constater que ce que Hanani a dit à Néhémie, c'était le reflet de la réalité, il ne l'a ni minimisé, il n'y a pas d'avantage aggravé. Fidélité dans le rapport d'une situation. Nous sommes si exposés soit à en diminuer la gravité ou à en accentuer la gravité. Néhémie a constaté exactement ce que Hanani lui avait dit. Et cela est précieux dans les contacts et les échanges qu'il y a entre croyants, notamment lorsqu'il s'agit d'être occupé d'une situation. Dans ce verset 17, n'avons-nous pas une évocation qui a quelques parallèles avec les dispositions que l'on peut adopter face à une discipline, à un gouvernement de Dieu, selon ce que nous enseigne l'Épître aux Hébreux. Quant à la discipline, nous pouvons ou sommes placé devant trois dispositions, deux défavorables et une positive, à savoir soit mépriser la discipline, soit perdre courage, soit être exercé. Dans la situation que Néhémie constate, et celle qu'il met devant la conscience et le cœur des anciens du peuple, n'y a-t-il pas aussi ces trois possibilités, et qui sont aussi placé devant nous lorsque nous constatons la faiblesse, la défaillance et souvent même la misère du témoignage collectif, qui est le résultat du témoignage individuel. Nous pouvons en prendre notre parti et dire « ben, les temps ne sont plus ceux des actes, c'est un temps de faiblesse, il faut se contenter des ruines et de toute manière nous ne pouvons pas rétablir ce qui était au commencement ». On peut en prendre son parti. On peut aussi perdre courage, en quelque sorte baisser les bras et disant « de toute façon, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a pas de retour possible, on abandonne la lutte. » Et la troisième possibilité, qui est la seule valable, c'est d'être exercé par cette situation et se s'emparer des ressources parce qu'il y en a. S'il n'y avait pas de ressources, qu'il n'y ait plus de possibilités, ce serait une autre chose. Nous avons par exemple cette situation à la fin de Deux Chroniques, à la fin des règnes des rois de Juda, où il nous est dit, quant à cette situation de ces tribus, à cause de l'état notamment des trois derniers règnes, il nous est dit que l'Éternel ne peut plus avoir de compassion parce qu'il n'y a plus de remède. Mais ce n'est pas la situation que nous avons ici. Ce n'est pas davantage la situation que nous avions dans le livre d'Esdras, lorsque Agé s'approche du peuple qui a abandonné pendant 15 à 16 ans la maison de l'Éternel. Il leur adresse des paroles de répréhension, d'exhortation, mais comme doit le comporter un service complet, il leur présente aussi des encouragements pour les stimuler tout en parlant à leur conscience, mais en leur présentant les ressources. Et les ressources que Agé présente à ce résidu qui courait à sa propre maison en abandonnant celle de l'Éternel, ce sont les mêmes que celles que nous avons aujourd'hui. « Je suis avec vous, dit l'Éternel des armées, ma parole et mon esprit demeurent avec vous, ne craignez point. » Et ce sont des ressources qui brillent d'un éclat particulier dans un temps de faiblesse et un temps où nous réalisons qu'il n'y a aucune ressource en nous-mêmes. Elles sont toutes du côté de Dieu. Et Agé, ce messager fidèle, qui n'a pas fait des grands discours, ses discours sont très brefs, ils sont incisifs. Il y a d'une part l'appel à la conscience, et il y a aussi l'appel au cœur, et il y a les ressources. Ne craignez pas. N'attendez pas que le monde ait des dispositions favorables, qu'il vous encourage. Cela ne viendra jamais. Mais les ressources sont là. Vous avez Dieu lui-même, sa parole et son esprit. Aujourd'hui, avons-nous autre chose? Avons-nous besoin d'autre chose? Ou sommes-nous privés de ces trois ressources? Nous avons la même corde triple, dans un temps de faiblesse. Par ailleurs, nous sommes très prompts à porter un jugement sévère sur Israël et à évoquer ces répréhensions des prophètes. Souvent, il n'a pas écouté, vous n'avez pas écouté. Cela est vrai. Et cela est lamentable et nous en voyons les conséquences. Néanmoins, il y a des conditions, des circonstances, des moments où l'histoire d'Israël nous présente une prise de position sans équivoque de la part des fidèles qui est un encouragement pour nous, et qu'un niveau même d'énergie que nous ne sommes pas souvent prêts à réaliser. Si l'on pense, revenant à Agé, ils ont arrêté la maison de l'Éternel pendant 16 ans. Ce n'était donc pas un état de chute, ou ils n'ont pas fait cela pendant quelques jours, 16 ans. Agé vient, il leur parle, et si nous faisons le compte, ce n'est pas sans raison que les mois et les dates nous sont donnés. Il y a exactement 3 semaines entre le message d'Agé et le moment où ils se sont remis au travail. 3 semaines. Un revirement complet dans les dispositions du peuple. Quel exemple! Avons-nous souvent réalisé, dans la vie de nos vies personnelles, dans la vie de nos foyers, dans la vie de l'Assemblée, lorsque constatation doit être faite qu'il y a eu écart ou relâchement, qu'il y ait un redressement en 3 semaines? On peut dire qu'Israël nous est un exemple. Ici de même, ces hommes-là, en quelque sorte, sont surpris par l'intervention, l'arrivée, par les paroles de Néhémie qui s'adressent aux anciens, aux nobles du peuple, aux sacrificateurs, qui se sont confortablement, on peut dire, endormis sur leurs ruines. Ils leur parlent. Remarquons qu'ils ne leur parlent pas seulement par la verge. On l'a remarqué, ils leur parlent par le cœur. Encore la voix subtile. C'est la voix qui brise le cœur. Il leur parle et que font ces hommes? Ils se lèvent et se remettent à l'œuvre. Ils ont écouté la parole d'avertissement, ils ont écouté la parole d'exhortation, ce à quoi nous sommes nous-mêmes exhortés dans les Épîtres, et nous devons bien reconnaître que nous restons souvent obstinément sourds aux paroles d'exhortation. Voire même nous les trouverons intéressantes. Peut-être encore sortirons-nous d'une réunion où des paroles de cette nature ont été adressées, nous ont été adressées à nos consciences et à nos cœurs en disant « c'était très beau, c'était très intéressant, néanmoins on continue la même chose ». Dieu veuille que ces encouragements, non seulement les répréhensions, mais les encouragements, se langagent au cœur, aussi bien qu'à la conscience, par lequel nous sommes appelés à prendre conscience du relâchement et un effet sur nos vies individuelles et collectives, sur la vie d'un témoignage, et que nous aussi, s'il y a des ruines, et nous devons bien reconnaître à notre confusion que la muraille spirituelle qui doit nous séparer du monde actuellement présente de nombreuses brèches. Dieu veuille que sans attendre, nous nous mettions aussi à l'œuvre pour remettre les pierres les unes sur les autres.
En entendant un mot des ressources du Seigneur, quand il y a un élan pour revenir à lui, j'aimerais rappeler ce mot de Juges 10, au verset 15. Les fils d'Israël ont crié à l'Éternel, nous avons péché. Verset 10. Au verset 15, les fils d'Israël dirent à l'Éternel, nous avons péché. Fais-nous selon tout ce qui sera bon à tes yeux. Seulement nous te prions, délivre-nous ce jour-ci. Et ils ôtèrent du milieu d'eux les dieux étrangers et servirent l'Éternel. Et voilà le mot auquel je pensais, qui traduit ce que sont les sentiments du cœur de Dieu, et son âme fut en peine de la misère d'Israël. Les sentiments du cœur de Dieu, son âme fut en peine de la misère d'Israël. Pensons aussi à ce côté-là.
Sur l'exemple d'énergie de Néhémie, nous avons vu qu'il a pu dire à son peuple, venez et bâtissons. Parce qu'il a lui-même constaté les ruines, il a lui-même constaté le besoin. Et alors, nous devons tous être interpellés en étant conscients que nous soyons conscients ou non, nous influençons nos frères, nos sœurs, notre entourage. Je pense au début du Deutéronome, un verset, où il y a eu une influence négative. Deutéronome, le premier chapitre et le verset 28. Nos frères nous ont fait fondre le cœur en disant « C'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous », etc., etc. Alors on peut voir les montagnes, on peut voir les difficultés, les géants, et on décourage ses frères, ses sœurs. Ou alors on peut être comme Néhémie, voir aussi ces mêmes ruines, et constater, comme on l'a rappelé, avec la même fidélité qu'Ananie, mais être encouragé, parce qu'il y a des ressources qui ne sont pas en nous. C'est quand nous cherchons des ressources en nous, que nous sommes découragés. Mais quand les ressources sont en Dieu, alors nous pouvons nous encourager et dire « Venez et bâtissons ». Nous avons rappelé que ce peuple était là et il pouvait constater la misère. Et d'ailleurs, verset 17, Néhémie leur dit « Vous voyez la misère dans laquelle nous sommes ». Ils l'avaient vu, ils s'étaient habitués, ils n'avaient rien fait. Effectivement, nous sommes aussi dans une misère, une faiblesse spirituelle. Nous sommes aussi dans un monde en ruine qui a besoin du message du salut. Que faisons-nous? Ici, bien entendu, le cadre d'Israël était un peuple de Dieu qui était séparé pour Dieu. Le cadre de l'Église va beaucoup plus loin, puisque nous avons encore un message à donner à ce monde perdu. Mais j'aimerais qu'on s'arrête sur ce qui nous occupe maintenant de cette énergie de cet homme de foi qui a su encourager ses frères, ses sœurs, parce qu'il a constaté des besoins. Et tout à l'heure, nous avons rappelé quelque chose de juste qui était ceci, la constatation d'un besoin ne constitue pas forcément un appel. C'est vrai. Mais on peut prendre l'inverse. Il n'y aura aucun appel sans connaissance des besoins. Celui qui sera appelé, c'est quelqu'un qui se sentira, c'est quelqu'un qui est concerné. Et cela doit aussi nous toucher face aux multiples besoins, face aux qui sont de tout ordre, dans un rassemblement local, dans notre entourage, dans notre cadre de travail, si nous ne voyons pas ces besoins. comment nous sentirons-nous appelés? Le Seigneur pouvait voir des foules qui étaient sans berger, et la parole nous rappelle qu'il fut ému de compassion. Et il ajoute, « Suppliez donc le Seigneur pour qu'il pousse des ouvriers dans la moisson. » Le départ, le point de départ, c'est la connaissance des besoins. Voir ces foules sans berger, voir ces ruines, ces portes brûlées. Et c'est ça le départ. Et le Seigneur travaille, comme il l'a fait chez un ami, pour produire un vrai réveil. Mais chose encourageante, Néhémie communique ce réveil, communique ce qu'il a ressenti, et il n'est pas seul à bâtir. Nous voyons, nous avons lu toute une suite de noms qui se sont levés. D'ailleurs, dans le verset 18, ils dirent « Levons-nous et bâtissons ». Et ils fortifièrent leurs mains pour bien faire. Chers amis, qu'allons-nous encore attendre? Quand nous lèverons-nous pour bien faire?
Dans le même courant de pensée, on peut dire que Néhémie porte bien son nom, consolation de l'Éternel. Il nous fait penser à Paul au début de la deuxième épître aux Corinthiens quand il dit, eh bien, je suis capable, ayant été moi-même consolé de Dieu, de consoler ceux qui sont dans une même peine. Et ici, évidemment, pour pouvoir consoler ses frères, il faut avoir pris conscience de la nécessité de consolation, c'est-à-dire bien réaliser quels sont les besoins. Alors maintenant il connaît la misère, on l'en a informé, il l'a vérifié, il a fait le tour de la ville, il a vu les ruines, ah, ce peuple a vraiment besoin de consolation. Et lui-même a éprouvé le secours du Seigneur, il a reçu la preuve que la bonne main de Dieu était sur lui, il est donc, on peut dire, en communion avec l'Éternel à ce sujet. Alors il vient apporter cette consolation, ces ressources qui ne peuvent venir que de Dieu. Et il peut être en mesure de consoler les autres, comme s'il leur disait, venez, voyez la misère, elle est là, sous nos yeux, impossible à nier, tout. Voilà, mais nous avons des ressources et levons-nous, bâtissons, travaillons ensemble. Il leur apporte pas seulement la confirmation de leur misérable état, mais il leur montre qu'il y a un chemin. Et c'est dans cela qu'il est consolateur. Il apporte la réponse à ses besoins. Il l'apporte de la part de Dieu. C'est la consolation, pas de Néhémie, pas de ce que quelqu'un est venu d'un pays lointain leur apporter de l'aide, leur fournir le bois qui leur était nécessaire. Non, c'est la consolation de l'Éternel. Dieu est avec nous, nous pouvons aller de l'avant, nous pouvons bâtir.
Il me semble que dans le discours de Néhémie à ses frères, on a un point extrêmement important au début du verset 18 et qui complète ce qui est au verset 17. Au verset 17, vous voyez la misère. Dans ce verset encore, venez bâtissons. Des paroles semblables avaient peut-être été adressées par d'autres des dizaines de fois auparavant, mais sans succès. L'Écriture n'en parle pas, mais je dis la chose serait possible. Au verset 18, il y a un élément de plus, un élément déterminant. Je leur racontai comment la main de mon Dieu avait été bonne sur moi et aussi les paroles du roi qu'il m'avait dites. C'est-à-dire que ce qui s'était passé, qui nous a été raconté au chapitre 1 et 2, était la preuve que maintenant Dieu intervenait en faveur de son peuple. C'était maintenant que Dieu prenait les choses en main, que Dieu ouvrait la porte pour que ce travail puisse se faire. Et au fond, nous sommes ici en présence d'un point d'une très grande importance. La conviction qu'une œuvre est de Dieu, que c'est Dieu lui-même qui est en train d'ouvrir les portes et d'incliner les cœurs comme il avait incliné le cœur du roi, afin que le travail se fasse. Et cette conviction, non seulement qu'il y a un besoin, non seulement qu'il faudrait y répondre, mais que Dieu nous appelle maintenant à agir et qu'il fournit maintenant les moyens pour agir et qu'il ouvre la porte et qu'il pousse ses ouvriers. Cette conviction-là est indispensable pour le travail qui va être fait.
Dès que Dieu travaille, qu'il y en a même l'intention par les mains du peuple ici qui se trouve fortifié, qui se trouve réveillé, alors l'ennemi se mobilise de son côté. Tant que les croyants sont assoupis, ne réagissent pas, les ruines sont là, l'ennemi n'intervient pas. Mais voilà, ces ennemis qui ont déjà été signalés au moment où Néhémie monte, parce que quelqu'un était venu chercher le bien des fils d'Israël, alors cette fois, les voilà qui surgissent de nouveau. Verset 19. Quand ils apprennent ce que les hommes de Jérusalem se proposent de faire, alors ils réagissent de deux manières. Nous connaissons bien cela, ça fait partie de l'opprobre. Ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent. La moquerie, le mépris sont des choses auxquelles nous sommes très sensibles. Et ça, ce sont des armes que le monde ne se fait pas faute d'utiliser. On les retrouvera au chapitre 4. Les moqueries, le mépris, les menaces aussi. Ici, il n'y a pas de menace encore, mais ça fait partie de l'arsenal du diable. Et le diable, dont nous n'ignorons pas les desseins, comme il est dit, les artifices du diable, ces dards enflammés, les voilà qui commencent à pleuvoir sur le peuple. Alors ce sont des moqueries. On l'a au chapitre 4. Que font ces faibles juifs, hein? Et ces hommes sont là. Il y a une réponse qui leur est donnée par la bouche de Néhémie. Et cette réponse, le Dieu des cieux nous fera prospérer. Nous sommes ses serviteurs. Nous nous lèverons, nous bâtirons. Et il réalise déjà cette séparation dont la muraille va matérialiser, pour ainsi dire. Vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Vous êtes du dehors, vous n'avez aucun des privilèges du peuple de Dieu, vous ne lui appartenez pas, vous n'avez donc rien à dire dans cette entreprise qui est celle de Dieu. Une très belle réponse qui tient en peu de mots, et réponse à toutes ces moqueries et à tout ce mépris dont le peuple est l'objet.
À la fin du verset 18e, nous avons une expression combien précieuse. Ils fortifièrent leurs mains pour bien faire. Qu'il est intéressant de mettre en contraste avec la disposition de l'homme sans Dieu, ou des hommes sans Dieu, en Michée, au chapitre 7, à la page 642. Au verset 3 du chapitre 7, au début du verset, nous lisons « Les deux mains sont prêtes au mal afin de le bien faire. » C'est donc une opposition totale entre deux dispositions, celle du croyant dont les mains doivent être fortifiées pour bien faire, alors que l'homme sans Dieu, ses mains sont prêtes pour faire le mal et pour le bien faire. Nous en avons les preuves tous les jours. Mais il est intéressant de voir la distinction, non seulement l'opposition de ce à quoi ses mains sont prêtes à agir, mais deux expressions contrastées. Quand il s'agit de faire le mal, c'est-à-dire le produit du corps naturel, leurs mains sont prêtes. Elles n'ont pas besoin d'être fortifiées. La chair n'a pas besoin d'être encouragée. Elle n'a pas besoin d'être fortifiée. Elle est toujours prête à faire du mal. Elle s'en prête. Alors que lorsqu'il s'agit de faire le bien, pour le Seigneur, pour Dieu, pour sa maison, on a besoin de secours. Elles ne sont pas nécessairement, spontanément, automatiquement prêtes. Il faut qu'elles soient fortifiées par la force que seul Dieu donne pour faire le bien. À la fin du chapitre, on a évoqué donc ce mépris, cette moquerie. Et nous sommes certainement plus sensibles à ce mépris, à cette moquerie qui touche à notre personne. On peut dire à l'orgueil, ce qu'on appelle honnêtement, sous d'autres formes, mais ce n'est rien d'autre que cela. Nous y sommes très sensibles. Et l'ennemi, en effet, sait agir par ce moyen-là, pour décourager, pour dissuader. Et l'autre, nous l'avons vu, nous l'avons dans le livre d'Esdras, il y a alors la proposition de l'association. Dans le livre d'Esdras, lorsqu'il s'agissait de bâtir la maison, les ennemis feignent s'associer en disant « nous bâtirons avec vous ». Et le discernement du but poursuivi par cette ruse de l'ennemi dans l'association accorde à ce résidu clairvoyant leur dire « nous seuls nous bâtirons une maison à l'Éternel ». Et nous avons une tentative semblable ici. Vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Il ne peut pas y avoir association entre la chair et l'esprit, entre ce qui est de Dieu et ce qui est de l'homme. Ce sont des éléments incompatibles, inconciliables. Et comme on le voit toujours, l'ennemi cherche à mettre ensemble ce qui n'est pas de la même nature. Il cherche à diviser ce qui est la même nature. S'il peut diviser les croyants, il a atteint son but. Il agit contrairement toujours au but de Dieu, qui est précisément de séparer les choses qui ne sont pas de la même nature et d'unir ce qui est la même nature.
Nous avons ainsi considéré le côté de l'action de l'esprit et la manifestation de la chair. Et combien souvent la chair voudrait vite agir avant et courir avant l'esprit. C'est pourquoi nous avons besoin d'abord d'avoir affaire avec le Seigneur pour que notre chair étant tenue pour morte, nous ne laissions agir que l'Esprit en nous, afin que nous ayons ainsi l'approbation du Seigneur et sa puissance à notre disposition. C'est en effet ces deux côtés dont nous avons été mis en éveil cet après-midi et que nous désirons en effet mieux réaliser cette dépendance, cette confiance et cet attachement au Seigneur pour n'agir que sous l'action de son esprit.
Nous avons parlé des bâtir. Il a été dit dans ce verset 17, « Venez et bâtissons la muraille de Jérusalem ». À la fin du verset 18, « Levons-nous et bâtissons ». Dans ce livre de Néhémie, ce verbe « bâtir » est spécifié bien qui est en rapport avec la muraille, c'est-à-dire avec une séparation de l'extérieur. La muraille nous parle de séparation. L'application qui est faite pour ce qui nous concerne dans l'Assemblée n'est pas de bâtir l'Assemblée. Il ne nous appartient pas de bâtir l'Assemblée. Il nous appartient aussi aujourd'hui de bâtir ce mur de séparation avec l'extérieur, avec ce qui ne correspond pas à la pensée de Dieu, conforme à ce qui est dit en 2 Timothée chapitre 2. Le Seigneur bâtit son assemblée. Il ajoute chaque jour à son assemblée ceux qui sont sauvés.
Chantons le cantique 67.